Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
L'armée rwandaise doit quitter le sol congolais avant de discuter avec Kigali dans le cadre du processus de négociation de Luanda, préalable posé par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'est exprimé ainsi hier lors d'une conférence de presse qu'il a co-animée avec son homologue français à Paris. Journée internationale de revendication des travailleurs, c'est aujourd'hui 1er mai. À cette occasion, Radio Kapi s'est intéressé aux conditions de travail des conducteurs des taxis-motos à Beni. Beni, où des milliers de taximens-motos sont confrontés à l'insécurité. Et puis, affaire de viol présumé, dont est accusé le pasteur Pierre Kasambakana, responsable de l'église primitive. Le procès a repris cette semaine devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala. Pour en parler, nous recevons Maître Liévin Guy Bungula, l'avocat de la partie civile Lisadel. Madame, Messieurs, bonjour. Il faut que l'armée rwandaise quitte le sol congolais avant de discuter avec Kigali dans le cadre du processus de négociation de Luanda. C'est le préalable que pose le président Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État congolais affirme aussi que la RDC peut compter sur l'engagement de la France dans la situation que traverse le pays dans sa partie est. Il s'était ainsi exprimé hier lors d'une conférence de presse qu'il a co-animée avec son homologue français Emmanuel Macron dans les locaux du Palais de Élysée à Paris. On écoute le président Félix-Antoine Tshisekedi.
Goma est presque totalement asphyxié. C'est fait exprès parce qu'on profitait d'un moment d'accalmie, moment que nous avons saisi pour donner la chance à la paix, à la demande de nos partenaires, pour avancer leurs troupes et ainsi essayer de couper la ville de Goma, tout approvisionnement, l'asphyxier et donc pouvoir la prendre. Je peux vous garantir que nous sommes en train de travailler pour que cela n'arrive pas. Et tant que cette situation sera comme elle est, ce sera impossible de parler. Vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un qui vous maintient le couteau à la gorge. Ce n'est pas possible. Donc, vous avez compris, pour avoir l'éventualité ou la possibilité de discussion, il faut que la situation évolue. C'est-à-dire, il faut que l'armée rwandaise qui actuellement se trouve sur le sol de mon pays et non le M23, parce que le M23 c'est une coquille vide que le Rwanda brandit, il faut que l'armée rwandaise quitte le sol congolais. Alors à ce moment-là, oui, ce sera possible de discuter, mais discuter pour désormais s'entendre sur le fait que le Rwanda n'a plus rien à venir faire en République démocratique du Congo au niveau militaire.
De son côté, le président français précise qu'il n'y a pas de double standard lorsqu'il s'agit de souveraineté territoriale d'un pays. Le dialogue, la recherche de la solution diplomatique et sécuritaire est plus efficace à ce jour, déclare Emmanuel Macron. On l'écoute.
La priorité, elle est là, elle est sécuritaire, c'est le plan sur lequel on a travaillé. Et donc pour moi, c'est véritablement ces premiers pas maintenant qui doivent être mis en œuvre dans un dialogue que nous allons essayer d'accompagner. Le rôle de la France est d'abord une voix claire sur la question de la souveraineté territoriale en Afrique. Et je pense que c'est très attendu sur le continent et c'est très attendu pour la crédibilité même de notre action. Je l'ai dit, il n'y a pas de double standard. Et donc on ne peut pas dire chaque jour que la souveraineté territoriale en Europe justifie des efforts massifs et notre soutien à l'Ukraine, mais que la souveraineté territoriale de la RDC, ce serait une question secondaire. Non. Parce que nous parlons à toutes les parties, c'est d'essayer d'aider cette médiation. Et comme nous l'avons fait aujourd'hui, je remercie encore une fois le président qui a pris des engagements clairs sur le FDLR, qui suppose un engagement aussi très fort de la communauté internationale et des forces onusiennes. Et son poids politique est important pour ce processus. Ou de la valeur vis-à-vis des Rwandais, que je me fais fort de convaincre d'un retrait en parallèle de leurs forces qui n'ont rien à faire sur le sol congolais. Et si on arrive à réenclencher un tel processus, la confiance se crée. Le rôle de la France, celui-là, c'est de le faire avec beaucoup de transparence, avec la défense de nos principes, des équilibres de la sous-région, et de le faire en lien très étroit avec les médiations régionales.
Notez qu'après la séance de travail à l'Élysée, Félix-Antoine Tshisekedi a échangé toujours hier avec des membres du MEDEF, le patronat français. Cela, ensemble avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC, c'est une table ronde d'affaires organisée à Bercy, siège du ministère de l'économie française. Objectif, booster les relations économiques entre les deux pays. Des opportunités d'affaires de la RDC dans trois secteurs clés de l'économie, à savoir les minerais stratégiques, l'énergie et les infrastructures ont été présentées présenté aux investisseurs français. Ce dossier est signé Cynthia Bachizi Nabizana. Pendant ce temps, la MONUSCO a cessé ses opérations dans le sud Kivu depuis hier, mardi 30 avril. Le choix de cette date n'est pas fortuit. En effet, à la demande du gouvernement de la RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé du retrait de la force de la MONUSCO de la province du sud Kivu à la date du 30 avril 2024, ce dans sa résolution 2717 de décembre 2023. Ainsi, le Conseil de sécurité limite la mise en œuvre du mandat de la mission onusienne dans les provinces du nord Kivu et de l'Ituri. On écoute à ce sujet Kadilo, la porte-parole de la MONUSCO.
À partir du 1er mai 2024, la responsabilité de la sécurité et de la protection des civils incombe exclusivement au gouvernement congolais à partir du 1er mai 2024. Tout le personnel en uniforme sera rapatrié d'ici le 30 juin 2024. Les contrats de la majeure partie du personnel civil arriveront à terme à la même date. Il ne restera qu'une équipe résiduelle de personnel civil chargée de travailler sur la transition au-delà du 30 juin 2024. Une partie du matériel appartenant au contingent sera rapatriée. Le 29 avril, les casques bleus chinois ont fait don de matériel d'une valeur de plus de 7 millions de dollars à la RDC, principalement du matériel de génie civil et des équipements médicaux. Le retrait de la MONUSCO de la province du Sud Kivu n'est pas synonyme d'un départ des Nations Unies. Après le désengagement de la mission, les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies continueront à fournir un soutien en rapport avec leur mandat respectif.
Autre nouvelle, 19 provinces sur les 26 que compte la RDC connaissent déjà leurs gouverneurs et vice-gouverneurs, ce alors que 20 provinces, y compris le Sud Kivu, connaissent déjà leurs sénateurs. Sur les 19 gouverneurs des provinces élus, 12 sont indépendants, 2 sont de l'UDPS, 2 de l'AB de Samalukonde et les 3 autres sont de l'ARDEV A de Jacques Kiaboula, A24 de Fifi Masuka ainsi que l'ANB de Guy Loando. Mais tous les gouverneurs élus, y compris les indépendants, sont membres ou proches de l'Union sacrée. Comment se présente alors la configuration politique en RDC après les élections des gouverneurs et sénateurs? Michel Kifindangoy.
À l'élection des gouverneurs, les indépendants remportent dans 12 provinces sur les 19. Il s'agit de Mike Mokeni de Bazuele, Jean Bakomito de Owele, Joseph Moïse Nkulumbu de Kasai Central, Grace Nkwanga du Congo Central, Daniel Bumba de Kinshasa, Willy Bitoasila du Kwango, Iron Van Kalombo de la Lomami, Moïse Moussa du Maniema, Jean-Colin Makaba de la Mongala, Michel Mobonga du Sud Ubangi, Christian Kitungwa du Tanganyika et Paulin Lendongolia de la Tchopo. L'UDPS n'a gagné qu'au Kasai avec Crispin Mukendi et Jean-Paul Mbouéboa au Kasai Oriental, l'abbé Amarmon Banza dans le Olomami et Victor Kitenge dans le Sankuru. Les 3 autres provinces sont dirigées par Arma Yamba de l'ANB dans le Tchopa, Fifi Masuka dans le Lualaba et Jacques Kiaboula dans le Haut-Katanga. Au sénatorial, Ensemble a gagné 3 sièges sur les 84, les indépendants en ont gagné 27, l'UDPS a 11 sièges, l'AB et l'AFDCA en ont 5 chacun, l'UNC, l'A24 et le MLC en ont 4 chacun, et les autres regroupements ont moins de 3 sénateurs chacun.
Au Kasaï central, vous le savez, à la suite des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, Joseph Moïse Kambulu a battu John Kabea de l'UDPS qui était candidat à sa propre succession. Après quelques agitations observées au sein des militants de ce parti, le Conseil régional des organisations non gouvernementales pour le développement appelle toutes les parties à la paix et à la retenue et à choisir les voies de recours indiquées. Entre-temps, le président fédéral intérimaire de l'UDPS Kananga invite les militants à éviter les actes de violence et accepter le jeu démocratique des élections. François Kadima.
Pour le Conseil régional des organisations non gouvernementales pour le développement, CRONG, il faudrait éviter de créer des troubles, mais privilégier la paix. Son secrétaire exécutif provincial souligne que les voies de recours sont connues pour contester les résultats. Albert Kyungu.
Qu'est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec les résultats doivent saisir les cours et tribunaux. N'est jamais céder à la manipulation.
À l'UDPS, où John Kabeya, le candidat gouverneur, a été battu, le président fédéral intérimaire du parti à Kananga appelle les militants au fair play et à éviter les agitations et violences. Justin Touloumé.
Les militants doivent comprendre, l'élection ce n'est pas une panacée. Dans une élection, il y a toujours les gagnants et les perdants. Ils doivent être à mesure de gérer ce qui est arrivé. J'en appelle les uns et les autres au calme et à la paix, à la sérénité. L'UDP sera un œil regardant.
Signalons qu'à la suite de ces élections de gouverneur et vice-gouverneur, Joseph Moïse Kamboulou, qui était candidat indépendant, a obtenu 19 voix contre 15 pour John Kabeya de l'UDP. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Et puis, il est originaire du Maniema, mais a été élu sénateur de la province du Haut-Katanga, sa province d'adoption, comme il l'appelle, tout en remerciant chacun des 11 députés provinciaux d'Ensemble pour la République qui ont tous, sans exception, accordé leur confiance et leur suffrage. Salomon Idikalonda voit en son élection un signe de l'unité nationale, de la réconciliation et de la paix sur toute l'étendue de la RDC, prioritairement à l'Est, sous lequel il dit placer son mandat. Dans un tweet, le bras droit de Moïse Katumbi écrit, je le cite, « Je suis fier et très reconnaissant à l'égard du Haut-Katanga, ma province d'adoption, qui a donné une leçon républicaine au reste du pays. Ce qui compte avant tout, c'est l'amour du Congo et la volonté de travailler d'arrache-pied pour les Congolais, d'où qu'ils soient. » Fin de citation. Rappelons que Salomon Idikalonda écrit de la Belgique où il poursuit ses soins après avoir obtenu la liberté conditionnelle. Nous sommes bien le 1er mai aujourd'hui. C'est la journée internationale de revendication des travailleurs, communément appelée fête de travail. Cette fête vise à commémorer les luttes historiques et les succès engrangés par les travailleurs du monde entier dans la foulée. À l'occasion, Radio Kapi s'est intéressée aux conditions de travail des conducteurs des taxis moto à Beni au Nord Kivu. Dans cette région, des milliers de taximens moto, en majorité des jeunes, sont confrontés à des difficultés liées à l'insécurité. Reportage signé Martial Papi Moukeba.
À l'absence d'autres formes de travail, les taximens moto est une profession pratiquée par des milliers de jeunes à Beni, une région où plusieurs jeunes se font enrôler dans des groupes armés, le chômage et le manque des perspectives d'avenir aidant. Certains travaillent la journée et d'autres la nuit dans une zone où la moto est le moyen de transport par excellence. Mais, du fait de l'insécurité, les conditions de travail des taximens moto de Beni sont devenues difficiles, comme l'explique Jean-Marie Bassabossé, secrétaire de l'association des motards de Beni.
Des vols de moto, il y a des kidnappings, surtout à ceux-là qui travaillent la nuit, même les recettes qui sont un peu minimum. Imaginez-vous un patron qui achète sa moto de 1000 et quelques dollars. Le motard manque, comment est-ce qu'il peut donner les 20 dollars par semaine?
Jérémy Ankoso, motard rencontré dans l'un des parkings des motards de Beni, aborde dans le même sens.
Nous sommes ici concentrés dans le même parking. Moyen de trouver de l'argent dans les sécurités, c'est difficile parce que nous sommes nombreux.
La région de Beni compte 30 associations de taximens moto, chacune avec des 100 à 3000 membres. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Par ailleurs, la Journée nationale de l'enseignement a offert hier mardi à Kinshasa l'opportunité aux professionnels de la CRE de présenter leur cahier des charges au gouvernement. Réunis au sein de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, ils y ont fait plusieurs propositions à l'exécutif national pour sauver le système d'enseignement. Reportage de Blaise Ndonga Lamayanda.
Ces chansons révolutionnaires, cris de colère et autres ont été mises en contribution par ces enseignants du secteur public pour exprimer leur ras-le-bol. Dans leur cahier des charges, ces professionnels de la CRE demandent à la Première ministre de prendre en charge en toute dignité les enseignants, les inspecteurs, les administratifs ainsi que les agents fonctionnaires de l'État. Ces enseignants recommandent également à Judith Souminia de convoquer la table ronde pour débattre sur les différentes réformes mises en place et proposer des pistes de sortie comme indique leur porte-parole, Jean Bosco Pouna.
Les enseignants regroupés au sein de la synergie demandent à Madame la Première ministre de convoquer la table ronde sur la gratuité de l'enseignement pour identifier les faiblesses de la réforme et proposer des solutions de sortie avant la rentrée scolaire prochaine. Il en va de même pour le système LMD instauré à l'enseignement supérieur et universitaire qui exige une évaluation générale pour ne pas sacrifier notre jeunesse.
Il a par ailleurs estimé que les postes soutenant la mise en retraite des enseignants et les systèmes de l'organisation de l'examen d'État doivent aussi être repensés.
Dans l'actualité aussi, une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, séjourne depuis hier dans l'ex-Grand Katanga pour une mission d'enquête dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, conduite par le professeur Eyale Bosela, commissaire national aux droits de l'homme en charge des droits socio-économiques et culturels au sein de la CNDH. Cette commission d'enquête s'épanche sur l'utilisation des enfants dans les mines de cobalt, avec un focus également sur le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, Pabea Cobalt, un projet du gouvernement financé par la Banque africaine de développement. Le professeur Eyale Bosela explique ici les enjeux de cette visite au micro de Jean-Marc Matouaki.
L'enquête de la CNDH-RDC a pour but de vérifier les allégations relatives à la présence persistante des enfants dans les mines et les sites miniers de cobalt. Procéder à une évaluation externe des résultats des projets financés entièrement ou en partie par l'État congolais sur l'éradication de la présence des enfants dans les mines et les sites miniers industriels et artisanaux de cobalt. Identifier les auteurs moraux et physiques des violations des droits de l'homme liées à l'exploitation des enfants dans les mines et les sites miniers de cobalt et proposer, n'est-ce pas, des mesures à prendre au cas par cas, chacun selon les degrés, n'est-ce pas, de responsabilité. Étudier la possibilité pour l'instauration d'un mécanisme permanent de la CNDH-RDC permettant de veiller au respect des droits de l'homme dans les mines et les sites miniers.
Actualité internationale. Nous sommes au Kenya, moins d'une semaine après la réunion d'urgence visant à apporter des solutions face aux inondations meurtrières qui touchent le pays. Le président William Ruto convoque à nouveau son cabinet pour aider les sinistrés. Le Service national de la jeunesse mettra à disposition un terrain qui servira de camp temporaire. La semaine dernière, le président kényan a annoncé la création d'une équipe interagence pour faire face à la crise. Causée par les pluies diluviennes, les inondations et glissements de terrain au Kenya ont détruit de nombreuses habitations. La montée des eaux a également détruit une route principale dans la région de la vallée du Rift cette semaine. Cette destruction a causé la mort d'au moins 45 personnes et la disparition des dizaines d'individus, selon le ministère de l'Intérieur.
L'invité.
Justice, reprise du procès de viol qui oppose la LISADEL, Ligue de la Zone Afrique pour la Défense des Droits des Enfants et Élèves, au pasteur Pierre Kasambakana, responsable de l'église primitive de Lingwala à Kinshasa. Ce dernier s'est marié à une fille présumée mineure. Le procès oppose donc la LISADEL, d'une part, au pasteur incriminé, le père de la fille, et un officier de l'état civil de Kinzamvwete au Congo central, d'autre part. Il a repris le 29 avril devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala. 4 préventions pour 3 personnes, dont le viol, faux en écriture, usage de faux et mariage forcé, sont en train d'être instruites. La prochaine audience est prévue le 13 mai. Pour en parler, nous recevons l'avocat de la partie civile, LISADEL, Maître Liévin Gibungula, répond aux questions de Jeff Ngot.
Maître Liévin Gibungula, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La LISADEL est en procès contre Pierre Kasambakana, pasteur d'une église primitive, accusé de viol présumé sur une fille supposée mineure. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Si vous pouvez quand même nous rafraîchir la mémoire sur l'historique.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il s'agit de RP 30501, où les pasteurs de l'église primitive, Pierre Kasambakana et monsieur Mabiala Nzuzi, et enfin, monsieur c'est Jean Ngoma Zantoto, sont tous poursuivis. Et les pasteurs poursuivis pour viol d'enfant et les faux en écriture. Mais c'est Mabiala Nzuzi poursuivi pour mariage forcé, faux et son usage en écriture. Et aussi, mais c'est Jean Ngoma Zantoto qui est un officier de l'état civil de Congo central vers Kinzamvwete, également poursuivi pour faux et son usage en écriture. Il s'agit concrètement de quoi? Monsieur le pasteur Pierre Kasambakana, il s'est spécialisé dans la prédication des mariages des enfants mineurs. Alors lui-même s'est marié à plusieurs enfants qui sont là chez lui, et même dans ses prédications, il exhorte ses fidèles d'aller se marier à des filles qui sont âgées de moins de 18 ans. D'où lui-même s'est marié à la fille Meda, la fille de Messier Mabiala Nzuzi, qui est également en détention et qui comparait ensemble avec le même pasteur, pourrait avoir donné sa fille âgée de moins de 18 ans dans un mariage.
Mais qu'est-ce qui prouve que la fille est moins de 18 ans, puisque son père qui l'a mariée, il insiste que sa fille était mariée déjà majeure?
Exactement, c'est le débat que nous avons eu au tribunal. Le père de l'enfant dit que son enfant est âgé de 18 ans. Nous avons demandé qu'il apporte les preuves. Les droits positifs congolais a prévu les moyens par lesquels vous pouvez justifier, dont la détention, soit l'obtention d'un acte de l'état civil. Les pasteurs et les pères des enfants, ils ont brandi une attestation de naissance qui atteste que cet enfant était né en 2005. C'est cette attestation qui a été contestée, dont M. Jean Ngoma Zantoto, le chef de l'état civil qui avait délivré, a été arrêté pour qu'il dise dans quelles circonstances et sur la base de quels documents il a donné. Heureusement, et nous avons beaucoup remercié ce monsieur qui est en train de coopérer avec la justice, il a bel et bien dit à l'audience publique d'hier, le 29, devant les juges, que ces documents, il a établi au mois de janvier 2024. Mais sauf celui qui est parti lui demander qu'il l'établisse, il lui a demandé de l'établir que c'est un document délivré en 2022, qu'il a antidaté. Les pères de l'enfant dit, parce qu'il est aux arrêts, parce que beaucoup de personnes ne savent que c'est les pères de cet enfant-là, est parmi les inculpés. Aujourd'hui, il est prévenu parce qu'il était au parquet, maintenant il est prévenu.
Est-ce qu'il est passé aux aveux? Il a reconnu que sa fille était mineure?
Comme vous venez de le dire, il n'a pas reconnu ça. Les pères de l'enfant continue à prétendre que son enfant était majeur. Mais sur base de quel document? Il n'a produit aucun.
Et vous avez produit quel document?
Nous avons participé à la commission rogatoire en tant qu'organisation de la société civile. Nous avons fourni les éléments, aidé le ministère public à envoyer un agent au niveau de l'école où l'enfant a étudié. Il y a plusieurs bulletins que cet enfant est né en 2009.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre quelqu'un, je parlerai de la fille, qui aime son mari, qui n'a pas été forcé à se marier, donc il y a eu consentement?
D'abord, avant même d'arriver à répondre à votre question, je vous dis que le débat que nous avons eu au tribunal, c'est celui-là. Le père de l'enfant dit qu'il a donné en cadeau sa fille à son pasteur. Et le pasteur dit que lui n'a jamais demandé. Par contre, c'est le père qui lui avait proposé et il lui a supplié plusieurs fois pour qu'il puisse prendre cette fille.
Cadeau en guise de quoi?
S'il vous plaît, c'est pour vous dire que l'enfant n'a jamais été contacté, même proposé pour... Alors que le problème de mariage, c'est l'homme lui-même qui doit aimer la femme et aller vers la femme, selon nos us et coutumes. Et selon les codes de la famille, le consentement pour un enfant de mineur est inopérant.
Est-ce que vous allez défendre quelqu'un contre son gré?
Là, nous ne partons pas défendre quelqu'un contre son gré. Il faut que les gens comprennent les choses. Ici, la Lise Adel s'est constituée partie civile contre les pasteurs et le père de l'enfant.
En quoi cela vous a lésé comme partie civile?
En tant qu'organisation de la société civile qui défend les droits des enfants, du fait que les droits des enfants sont violés en République démocratique du Congo, la Lise Adel est préjudiciée profondément. C'est comme si la Lise Adel ne fonctionne plus.
Merci beaucoup.
Maître Liévin Gibungula, avocat de la partie civile, Lise Adel, répondait aux questions de Jeff Ngoy. Sachez que les parties défenderesses ont promis de réagir. Nous vous proposerons donc leur son de cloche dans nos prochaines éditions. Par ici, prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.